religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous ouvrons cette première édition 2018 de Religion du Monde avec le regard croisé sur deux personnalités majeures du XXe siècle, Nelson Mandela et Gandhi. Mandela, vainqueur de l'abolition de l'apartheid en 1991, Gandhi, emblème de la non-violence et héros de l'indépendance de l'Inde en 1947. Nos deux invités, Sophie Viguier-Vinson et Eric Vinson, sont les auteurs de ces biographies en miroir, réunies dans un titre tout simple, Mandela et Gandhi, publié chez Albin Michel. À tous deux, bonjour.
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 Alors, Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde? C'est le sous-titre.
Oui.
D'emblée, dans le titre, on comprend que l'on ne va pas avoir affaire à deux biographies classiques, que votre travail de recherche va porter sur les leviers, et notamment le levier spirituel, hein, ce sera le fil conducteur de cette émission, sur les leviers qui ont nourri le combat des deux hommes. Et on comprend aussi que nous resterons davantage sur le sol sud-africain. Alors déjà, une première question. Pourquoi ce livre maintenant? Certes, il y a une date anniversaire, le 30 janvier 1948, il y a donc 70 ans, Gandhi était assassiné par un fanatique hindou. Et puis le 18 juillet prochain, ce sera le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, né donc en 1918. Alors ce sera certainement un moment de commémoration. Alors, est-ce que ces anniversaires sont le motif
l'occasion, c'est plutôt ce qui nous a contribué à nous décider à nous lancer sur ce chantier, parce que comme le montre le livre, en fait il y a beaucoup de raisons de rapprocher ces deux figures, ces deux géants, et je dirais de repérer aussi des aspects de leur parcours qui sont peut-être méconnus ou qui ont été sous-estimés, notamment la question spirituelle chez Mandela, pour voir aussi qu'en faire aujourd'hui, quand tirer, en comprenant mieux leur cheminement, quand tirer face à nos défis actuels.
Il est vrai, Sophie Viguier-Vinson, que la spiritualité de Mandela n'a pas été beaucoup abordée lorsqu'il est décédé. Moi, j'en avais parlé dans Religion du Monde. J'avais notamment interviewé, rencontré donc Emmanuel Lafont, hein, le père Emmanuel Lafont, qui a vécu de longues années en Afrique du Sud. Mais on en a peu parlé à ce moment-là.
C'est pas l'aspect le plus mis en avant du personnage, et lui-même a été très discret sur sa spiritualité. Ça affleure dans son autobiographie, de façon pour nous évidente, mais ce sont des indices comme ça qu'il faut retrouver et rassembler, et qui font sens ensemble. Lui-même a été discret, mais il a pu dire une chose, et j'allais dire son contraire, mais pas vraiment, mais il va dire qu'il faut rester discret et que c'est l'affaire de chacun et que ce n'est pas une question qu'il faut rendre publique. Et d'un autre côté, il a quand même pris la parole à plusieurs reprises dans ses discours pour rappeler l'importance des religions dans le processus de libération de l'Afrique du Sud, l'abandon de l'apartheid, comment elles ont pu contribuer à la formation aussi d'une certaine élite noire, et comment finalement la religion coule dans leurs veines. C'est le mot qu'il emploie, donc c'est quand même très fort de dire ça. Maintenant, lui a été plus discret sur son parcours personnel.
Il est très pudique, en fait. Il y a une pudeur qui vient certainement de son éducation aussi. C'est un homme, on l'a né en 1918, hein, donc c'est une autre culture, hein, un autre rapport aussi à l'intimité, à l'extériorisation de ce qui relève de l'intériorité. Donc Mandela, voilà, et entre guillemets, étale beaucoup moins son propre cheminement spirituel que ne le fait Gandhi, qui lui, pour le coup, va énormément parler de tout ça et est donc connu pour ça, ce qui n'est pas le cas de Mandela.
Mais alors, sur cette mise en perspective, hein, Mandela-Gandhi, comment vous est venue l'idée? Est-ce que c'est parce que Gandhi a vécu plus de 20 ans en Afrique du Sud? Est-ce que parce que Gandhi est l'apôtre de la non-violence et que Nelson Mandela sera finalement un emblème, hein, de la non-violence après un passage par la violence, mais finalement assez court, et on comprendra pourquoi, bien sûr, très bien. Est-ce que c'est pour ces deux raisons-là?
Alors, je dirais que c'est la raison finale. Mais en commençant à travailler sur ces deux personnages, en fait, ce qui nous a donné le déclic, c'est qu'ils sont toujours cités ensemble. On veut se réclamer de Gandhi et Mandela. ils incarnent quelque chose de commun.
C'est un tandem.
C'est un tandem. C'est un tandem qui a fonctionné, alors à distance, hein, forcément, mais sur une même terre. Donc ça, c'est certain. Et en même temps, quand on a commencé à travailler, on a vu plein de points de rapprochement. Ils ont des biographies assez parallèles, finalement.
Effectivement, quand on lit, on s'en rend bien compte. Plus on avance, plus on se dit, mais qu'est-ce qu'ils se ressemblent?
Mais qu'est-ce qu'ils se ressemblent et pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux issus d'un milieu traditionnel. Donc ils ont cette culture traditionnelle d'origine. Ils ont été sensibilisés au christianisme, ils ont été formés à l'occidental tous les deux, ils sont devenus tous les deux avocats, et ils ont tous les deux été des lutteurs en politique. Ils ont porté également un même idéal d'égalité et de liberté.
Et de justice.
Et de justice.
Et tous deux vont mener un chemin de conversion.
Exactement, de conversion à plus d'un titre, spirituel et politique.
Alors, quelques repères, Éric, Vincent, sont nécessaires pour bien comprendre. Déjà, Gandhi naît en 1869.
C'est ça, Gujarat, dans l'ouest de l'Inde.
Il meurt donc en 1948, assassiné. Nelson Mandela naît en 1918.
Au Transkei, donc ce qu'on appelle un bantoustan de l'Afrique du Sud, peu avant le début des années 20.
Donc une cinquantaine d'années les séparent.
Tout à fait, une cinquantaine d'années les séparent, oui. Et en même temps, voilà, donc on pourrait dire il y a deux générations, c'est-à-dire que le Gandhi pourrait être le grand-père de Mandela. Ils auraient pu se rencontrer, hein, quand on voit dans la. Donc quand Gandhi meurt au tout début de 1948, Mandela a presque 30 ans. Bon, ils ne se sont pas rencontrés, mais le fait est que, en effet, il y a eu un héritage gandhien qui a perduré en Afrique du Sud après le départ de Gandhi de ce pays en 1914. Et donc l'ANC, hein, qui est donc le mouvement qui mènera la lutte contre la discrimination raciale et contre l'apartheid jusqu'à triompher, eh bien, a été marqué dans ses premières années par cette imprégnation non violente, cette imprégnation de type gandhien, et dont Mandela sera lui-même imbibé, avant, comme on l'a dit, de s'en éloigner à un certain moment de son propre parcours personnel et politique, et puis pour y revenir finalement, certainement dans la fin de son incarcération, qui va durer plus de 27 ans, et donc se manifester après sa libération, donc au début des années 90, comme une figure majeure de la réconciliation nationale, de la non-violence, et finalement devenir une icône mondiale de la démocratie et d'une certaine éthique en politique, d'une recherche aussi d'une justice planétaire.
On poursuit avec vous, Sophie Viguet-Vincent, sur les repères, j'allais dire, qui permettent quand même de bien situer l'un par rapport à l'autre. Donc Gandhi va arriver en Afrique du Sud en tant qu'avocat. Il a à ce moment-là 24 ans.
Exactement.
Nous sommes à ce moment-là en 1893 et il va y avoir un élément qui va effectivement être le détonateur. Il veut se rendre, c'est donc un avocat d'affaires qui marche bien, hein, qui a un costume trois pièces.
Exactement.
Et il veut se rendre à Pretoria.
Il va représenter les intérêts d'une firme indienne. C'est sa raison d'être en Afrique du Sud. Et il fait un voyage pour aller voir la partie adverse. Et donc, il traverse l'Afrique du Sud. Et en changeant de province, il change aussi de loi, de système juridique. Et les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, s'il part en première classe au départ, il se fait jeter du train en cours de route par un Anglais qui n'entend pas voyager avec une personne de couleur. Et on sent dans son récit, dans son autobiographie, Mes expériences de vérité, que c'est un électrochoc. Il découvre le racisme. Et je pense que jusqu'à présent, il se considérait comme un Anglais indien. Mais un Anglais avant tout. Il arrive de Londres. Hein. Il a passé 3 ans en Angleterre pour se former en tant qu'avocat. Bon, il a fait un court séjour en Inde en revenant avant d'arriver en Afrique du Sud. Donc, il se considère vraiment comme un Anglais. Il ne comprend pas du tout pourquoi il peut être jeté du train à ce moment-là et perçu comme une personne de couleur.
Et là, c'est le déclic.
C'est le déclic. Disons que c'est l'un des déclics. C'est ce qui va lui permettre de s'interroger sur sa raison d'être en Afrique du Sud. Il se dit, mais est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et il y a beaucoup à faire. Et donc assez vite, l'affaire juridique est résolue. Et d'ailleurs, il expérimente pour la première fois avec une étonnante maturité, parce qu'il a quand même, comme vous le rappeliez, 24 ans. Et il trouve une solution de compromis, ce qui désarçonne au départ les deux parties. Mais voilà, il a cet esprit du compromis et finalement de la paix. Et dans cet esprit-là, il se fait connaître, il se fait reconnaître, et dès la fin de sa mission, il s'apprête à partir, sauf qu'il est retenu par la communauté indienne, qui s'inquiète de la promulgation d'une loi qui risque de leur interdire leur inscription sur les listes électorales, et donc les couper de la vie politique sud-africaine. Et donc il accepte de rester, et c'est là qu'il va fonder le Congrès indien du Natal.
Le premier parti indien.
Qui reprend ce terme de congrès, hein, qu'on retrouve aussi, comme on sait, dans le grand parti leader vers l'indépendance et par la suite de l'Inde, et qui sera aussi donc présent dans le terme ANC. Hein, le C de ANC, c'est Congress, hein, donc le Congrès national africain, donc qui sera cette fois donc le parti fondé en 1912, qui sera celui de Mandela.
Alors, Eric Vincent, on poursuit ce parallèle. Chez Nelson Mandela, contrairement à Gandhi, même s'il y a un épisode, on va le voir, hein, l'épisode du tram, il n'y a pas un événement finalement détonateur. C'est une suite d'humiliations.
C'est ce que Mandela dit lui-même. En fait, et on pourrait presque imaginer que dans sa façon de dire qu'il n'a pas eu d'expérience de vérité fondamentale par rapport à cette question de son engagement, de cette politisation, il y a une référence peut-être implicite à Gandhi, puisque Gandhi justement titre son autobiographie « Mes expériences de vérité ». Donc Mandela nous dit « Moi, j'en ai pas eu de si déterminante », et en même temps, il nous raconte un certain nombre de choses qui l'ont marqué. À commencer en effet par cet épisode du tram où donc en 1943 il subit une humiliation, il est traité de kafir, hein, donc un terme très injurieux, en tout cas perçu comme tel aujourd'hui, proféré par le conducteur du tram dans lequel il est monté sans en avoir le droit, compte tenu des règles déjà très discriminantes qui règnent dans le pays. Et là aussi, voilà, on voit qu'il y a une espèce de déclic probable, ou en tout cas quelque chose qui fait image, hein, et en effet qui rapproche ces deux hommes.
Alors ces deux hommes, donc tous deux avocats, qui placent dans le droit effectivement, j'allais dire, une forme de mission.
Oui. Il y aurait beaucoup à dire sur la convergence entre le métier d'avocat, la vocation d'avocat et la vocation politique. Hein, dans l'histoire, on a une foultitude de grandes figures. Hein, pensons à Mirabeau, pensons à Robespierre et d'autres, hein, qui ont été avocats. Le saint patron des hommes politiques est un avocat aussi, Thomas More, un avocat anglais du XVIe siècle.
More en martyr.
Et donc on voit, voilà, entre ces deux activités, ces deux métiers, ces deux vocations, il y a de forts liens. Et en effet, la vocation de la défense de la vérité, de la justice et aussi de la défense des plus faibles semble bien animer à la fois Gandhi et Mandela.
Simplement, Sophie Viguier, Vincent, la religion prime chez Gandhi. Alors qu'elle ne prime pas, on le sait bien, c'est d'abord le combat politique. Mais la religion prime chez Gandhi, non ?
Disons que elle prime chez Gandhi, ça c'est évident, il le dit, il le répète, que c'est vraiment sa quête. Il a d'ailleurs une façon très extravertie d'en parler, hein, sans aucune pudeur, à la différence de Mandela, qui est extrêmement pudique. Maintenant, c'est très difficile de savoir si la religion ne prime pas pour Mandela.
On va le voir, on va en parler un peu plus tard,
ouais, mais dans les ressorts de son combat. C'est manifeste chez Gandhi, et ça fait vraiment partie de sa formation intellectuelle, spirituelle bien sûr, mais politique également. Et dès son voyage, je dirais, en Angleterre, où il s'abreuve de lecture, il découvre les évangiles, il approfondit cette lecture des évangiles en Afrique du Sud, il fait partie de groupes religieux, on lui propose de se convertir, et puis il dit non. Donc il va rester finalement dans l'hindouisme, fidèle à l'hindouisme, justement en profiter pour redécouvrir les grands textes hindouistes.
Notamment donc la fameuse Gita.
Oui, exactement. La Bhagavad Gita. Oui.
Que dit ce texte ? Quel est le fondement de ce texte ?
C'est... En fait, donc la Bhagavad Gita, on pourrait dire c'est un peu l'équivalent de l'évangile pour les hindous. C'est-à-dire que c'est le texte que tous les hindous connaissent parfois par cœur, et qui est un extrait d'une épopée qui s'appelle le Mahabharata, une épopée sur l'histoire légendaire, mythique de l'Inde ancienne. Et donc cet épisode de la Bhagavad Gita met en présence Krishna et Arjuna. Donc Arjuna est un guerrier, Krishna est son ami et son cocher, mais il se révèle comme étant une incarnation divine, et il enseigne dans ce texte donc à Arjuna en fait une voie spirituelle à la fois simple, je dirais, en même temps essentielle, qui pourrait être mise en pratique par tout un chacun et qui fera donc sens et référence pour tous les hindous.
Et à noter que Gandhi manifestement est beaucoup plus sensible au Nouveau Testament qu'à l'Ancien, et
tout
notamment au texte, le grand texte, le serment sur la montagne.
Exactement, c'est là où on voit que, comme on l'a dit, Gandhi est un personnage à la fois très enraciné dans sa culture indienne et dans sa tradition indienne, et en même temps très ouvert sur le monde et sur les autres religions, en particulier le christianisme, en particulier en effet les évangiles et certains passages des évangiles qui mettent en avant la quête de vérité et aussi le rejet de la violence.
Sophie Viguier-Vincent, dans le livre, il y a tout un chapitre consacré à la double culture, justement, des deux, de Gandhi et de Nelson Mandela. Nelson Mandela, lui qui grandit, là, j'allais dire, dans la campagne.
Dans le Veld, effectivement, voilà. Avec une couverture sur le dos.
Avec une couverture sur le dos.
En étant libre. Et c'est vraiment fondamental pour lui, parce qu'il naît libre, à la différence d'enfants de son âge qui, eux, sont dans les villes et qui sont beaucoup plus au contact de la misère et d'une ségrégation déjà évidente. Lui, il vit dans un milieu traditionnel et il est libre. Il ajuste les lois de sa communauté avec lui, et voilà, et donc il reçoit les lois paternelles, il découvre aussi le christianisme dans son enfance, mais voilà, il évolue dans un environnement extrêmement favorable à son épanouissement personnel, tout simplement, et ce qui fera sa force durablement.
Alors, une sobriété heureuse, vous décrivez cette vie comme d'une sobriété heureuse,
oui.
Puisqu'on vit pas grand chose, avec un amour de la nature, notamment du bétail, grand respect du bétail.
Tout à fait, un respect du bétail, une évidence de l'amour de la nature. La nature, elle est là, la nature, elle est habitée, elle est, et voilà, et c'est aussi un terrain de jeu. C'est un enfant, enfin, je veux dire, il en parle beaucoup de ça. C'est un terrain de jeu, et en même temps, c'est un terrain d'apprentissage. Il dit que sa première leçon de politique, finalement, il la reçoit quand il se bat au bâton avec les autres, et qu'il apprend à ne pas acculer son adversaire.
Ah oui, voilà. Ne pas l'humilier.
Et ne jamais humilier son adversaire.
Ne jamais humilier l'adversaire.
Voilà. Ouais. Donc il est déjà très tôt dans cette double culture, parce qu'effectivement il est dans ce milieu traditionnel africain et il reçoit le christianisme. Cette ouverture au christianisme, il est baptisé, il entre à l'école, on lui donne le prénom de Nelson, alors qu'il s'appelait Rolilala. Ce qui veut dire secoue la branche de l'arbre, autrement dit attire des ennuis. C'est tout un programme pour lui, il en rira beaucoup à maintes reprises plus tard.
Et au sein donc de cette vie dans son clan, il va aussi apprendre une forme d'organisation politique.
Tout à fait, c'est quand il est recueilli après la mort de son père par le régent de sa communauté, par le roi en fait, des périphrases employées par les Afrikaners et les Anglais pour ne pas nommer les rois, mais en fait voilà, c'est cet équivalent. Il est recueilli et à la mort de son père, il va être formé, là aussi une double culture. Avant d'aller à l'école, il observe la communauté s'organiser autour du régent. Et le régent reçoit les autres chefs, discute, et là s'organise le dialogue politique de manière très démocratique. Donc il voit s'organiser les choses, il voit le régent finalement ce qu'il appelle diriger de l'arrière et laisser les autres prendre une décision qu'il a peut-être induite. Donc ça, c'est une première leçon. Et puis, il reçoit aussi l'histoire de son peuple et il reçoit une première piqûre, je dirais, d'engagement en écoutant le récit des chefs qui se sont battus contre une domination blanche qui s'organisait.
Et est-ce que cette mission dont il s'est senti quand même très tôt investi, ça sera ma dernière question avant de vous retrouver après le flash. Sophie Viguier-Vincent, est-ce que cette mission, précisément, il a pu la recevoir là, en voyant, en comprenant qu'il fallait en quelque sorte un berger, lui-même en parle, il faut un berger.
J'ai pas l'impression que ce soit là qu'il la reçoit. Je pense qu'il reçoit l'essentiel pour y être sensible. Il est sensibilisé à la grandeur de son peuple et de son histoire. Mais cette mission, il va la découvrir plus tard quand il va arriver à Johannesburg. Il va découvrir les conditions de vie infiniment plus dures et la réelle injustice. Et donc là, il va prendre conscience. Et puis, il va être investi de cette mission aussi par les autres, par ses proches. Il va pas se lancer tout seul, quoi. On va lui dire, on a besoin de toi en tant qu'avocat. Tu vas rester à l'étude. Tu vas finir ta formation. On a besoin de toi.
Sophie Viguet-Vincent, Éric Vincent, on vous retrouve. Après le flash, on retrouve Gandhi et Mandela.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de Religion du Monde. Et nous retrouvons nos deux invités, Sophie Viguet-Vincent et Éric Vincent, auteurs d'une grande biographie croisée de Gandhi et de Nelson Mandela, publiée chez Albin Michel. On peut parler effectivement de biographie spirituelle. Éric Vincent.
En fait, c'est plus un essai de pensée politique qui procède par le rapprochement de deux biographies. Donc ce n'est pas vraiment ni une biographie de Mandela ni une biographie de Gandhi, il en existe et c'est un travail énorme que dans lequel nous voulions nous lancer. Par contre, ce qui n'existait pas, c'était ce rapprochement et surtout l'interprétation de ce rapprochement pour voir en quoi ces deux figures pourraient correspondre à ce qu'on appelle des spirituels engagés ou des démocrates spirituels, c'est-à-dire un type bien spécifique d'action politique qui ne sépare pas l'intériorité et l'action militante.
Même si cette intériorité, effectivement, est exprimée de façon très pudique chez Nelson Mandela.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Gandhi constitue en quelque sorte l'archétype de ce positionnement très spécifique de spirituel en démocratie, alors que Mandela serait, je dirais, sur le bord, en quelque sorte, de cette famille qui rassemble Gandhi, Martin Luther King, le Dalai Lama, Ibrahim Rugova Vaclav Havel, beaucoup d'autres grandes figures. Et donc Mandela, et comme je dis, voilà, Mandela serait probablement, je dirais, sur le bord de ce groupe. Il est plus pudique, il n'est pas un théoricien. Gandhi est plus un théoricien et Mandela est plutôt un pragmatique. Et donc voilà, à cause de la pudeur qu'on a déjà évoquée, il va, et aussi certainement à cause aussi de son imprégnation marxiste, le rapport au religieux est plus complexe chez lui que chez Gandhi, moins directement assumé, mais en même temps notre hypothèse c'est que il est néanmoins déterminant.
Sophie Viguet-Vincent, votre livre est très fourni, il donne effectivement énormément de références, hein, historiques, il y a des étapes que l'on voit très bien se dessiner dans le livre, dans le parcours donc des deux grands hommes, Mandela et Gandhi, et l'on voit effectivement comme une sorte de conversion, hein, qui s'opère chez chacun, conversion spirituelle, conversion politique. Commençons par Gandhi déjà.
Eh bien, conversion spirituelle et politique, je pense que c'est exactement ça, c'est les deux en même temps. Elle est certainement nourrie progressivement par des lectures pour Gandhi, qu'il commence en Angleterre, qu'il poursuit activement en Afrique du Sud, par celle de Ruskin, par exemple, And to the Last, qui le pousse à fonder une communauté à Phoenix, par exemple, où il va rassembler sa famille, mais expérimenter aussi des choses dans l'organisation des hommes pour un retour à la terre.
Très écolo, hein.
Ah, complètement. C'est un précurseur de l'écologie.
C'est vraiment un précurseur de l'écologie.
Mais il est technophobe,
hein, et de la vie
presque.
Simple.
C'est
un précurseur de Rabi, je pense,
oui,
surtout. Ouais, hein, c'est vraiment ça. Hein.
On pense beaucoup à Rabi, effectivement. Pierre
Rabi,
oui.
Il pense beaucoup à Gandhi, il le dit aussi. Et je pense que voilà, il expérimente ça. Donc, il vit une conversion dans son quotidien, intellectuellement, spirituellement et politique. Et puis, il y a un déclic aussi qui se fait, qui force la conversion politique vers la non-violence. En 1906, juste après la révolte des Zoulous à laquelle il a participé en tant que brancardier aux côtés des troupes des anglaises,
britanniques, oui.
Aux côtés des troupes britanniques.
Très controversé. Hein,
c'est extrêmement controversé. Voilà. À la suite de cet événement, il a un déclic. Il est tout de suite repris dans la lutte pour la défense des droits indiens. Les Indiens s'organisent. Il rejoint le groupe. Et là, lors d'une assemblée en 1906, un homme, un Indien, propose quelque chose, de prêter serment devant Dieu, parce qu'ils réfléchissent à la force de leur engagement. Qu'est-ce qui peut faire tenir leur engagement? Et cet homme dit, mais on n'a qu'à prêter serment devant Dieu. Peut-être que nous, ça nous semblerait complètement anecdotique, vu de notre point de vue français, laïque, voilà. Mais pas pour Gandhi. Chez lui, ça résonne. C'est un électrochoc, un nouvel électrochoc. Et il se dit, mais c'est ça, en fait. Parce que devant Dieu, on ne peut pas mentir. et donc on ne peut pas se dédire. Et il engage ce mouvement de non-violence devant Dieu.
Ce qu'il va appeler le satyagraha, c'est-à-dire l'étreinte de la vérité, hein, un terme sanskrit, un néologisme qu'il forge. Satya, c'est la vérité, graha, voilà, étreinte, saisie. Donc c'est une locution difficile à traduire en fait. Tenir bon avec la vérité, s'accrocher à la vérité, la force de la vérité, sachant que la vérité est le principal nom de Dieu pour Gandhi. Hein, donc il y a vraiment cette dimension, à la fois on pourrait dire aussi enracinée dans la tradition spirituelle et éthique indienne, et en même temps novatrice, puisque cette notion, c'est Gandhi qui la forge. Et le satyagraha va devenir l'un des concepts clés du gandhisme. Il y en a plusieurs, mais c'est celui-là va bien sûr rester et vraiment décisif.
Donc c'est emprunter d'abord les voies légales de la revendication. Alors ils ont des meetings qui sont plus ou moins autorisés, mais voilà. À côté de ça, ça va être des pétitions, ça va être des revendications formelles.
Des articles de presse.
Avant d'aller plus loin dans la lutte et de franchir le Rubicon pour aller vers des actions plus contestées par le régime, tout en restant dans les limites de la non-violence. Donc c'est une manifestation toujours pacifique et d'acceptation aussi de la violence de l'autre.
Alors c'est ce qui va inspirer dans un premier temps, pendant de longues années, l'ANC.
Tout à fait, l'ANC assiste, on pourrait dire les fondateurs de l'ANC.
Donc 1900, l'ANC, la fondation,
1912. Mais donc un certain nombre de grandes figures, par exemple comme le pasteur Dubé, qui est un Zoulou, qui assiste à la naissance de ce satyagraha indien. Et donc lui et quelques autres, qui vont être les leaders de la résistance noire au régime de ségrégation, vont se nourrir de cet exemple indien, vont en même temps mettre du temps à le mettre en œuvre. C'est-à-dire que on va voir que ils ont le sentiment, par exemple, que c'est plus difficile pour eux. Et c'est certainement vrai. Les Indiens sont une toute petite minorité, mais qui a en même temps des leaders puissants. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont éduqués. C'est beaucoup moins le cas chez les Noirs en Afrique du Sud à cette époque-là. Mais donc à long terme, j'irai surtout à partir des années 30-40, on va voir l'ANC prendre de la force et s'organiser autour de ces valeurs de non-violence active. Non-violence active, alors la référence au satyagraha, elle est par moments explicite, en tout cas la référence à Gandhi, et puis on a aussi la continuation de l'héritage gandhien chez les Indiens d'Afrique du Sud. C'est-à-dire que, par exemple, Gandhi n'a pas laissé que ses idées, ses méthodes en Afrique du Sud, il a laissé une partie de sa famille. Il a laissé notamment son fils, Manilal. Et donc ce dernier fait vivre le journal qu'avait fondé Gandhi. Vous voyez, donc il y a vraiment une transmission qui se fait par ce biais-là. Et il y a une date importante de ce point de vue, qui est 1946, où on va avoir une grande mobilisation indienne contre le régime pré-apartheid, si on peut dire, parce que l'apartheid en tant que tel commence en 48 seulement. Mais une mobilisation de type gandhien très forte en Afrique du Sud. Et là, Mandela, les jeunes qui l'entourent, comme Tambo, et puis les autres figures de l'ANC vont être frappées par cet exemple.
Alors effectivement, Sophie Viguier-Vincent, donc on va voir qu'à un moment donné, la non-violence ne fonctionnant pas, là Nelson Mandela va créer au sein de l'ANC une branche armée, ça sera une période très courte, mais il y aura effectivement
tout à fait
une action.
Alors,
violente.
D'abord, il y a une conversion à la non-violence. Voyant les Indiens mener une lutte très active, si ce n'est très efficace, du moins très fédératrice. Et donc, il va y avoir un clivage entre la conception d'une non-violence de principe, l'héritage gandhien, et la conception d'une non-violence tactique, qui va être celle de Mandela. Il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, la non-violence n'a pas de valeur en tant que telle à ses yeux. Ils s'aperçoivent assez vite que finalement toutes leurs revendications sont rejetées. Cela ne les empêche pas de se fédérer, de faire des choses immenses, de proposer une charte de la liberté en 55, de la diffuser, de regrouper finalement tous ces groupes de réflexion sud-africains et d'unir les luttes indiennes et noires, ce qui est très important. Et voilà, comme ça ne suffit pas, la non-violence n'étant pas un principe en soi, Mandela l'abandonne au tournant des années 60 pour organiser une branche armée de l'ANC.
Et donc on sait comment ça va se terminer effectivement. 1962, il est incarcéré pour 27 ans et c'est là où le Mandela intérieur, j'allais dire, va pouvoir éclore en quelque sorte. Et là, je ne sais pas si on peut parler de conversion, mais il y a un véritable chemin, un chemin de 27 ans qui va se construire.
Sophie. C'est vraiment un long chemin vers la liberté. Il s'exprime aussi là, dans ses années de prison. C'est-à-dire que c'est vrai, en 62, il est d'abord incarcéré parce que voilà, il est accusé de sédition, et puis après on découvre qu'il est membre de cette branche armée, et là il est accusé de haute trahison avec ses compagnons et condamné à perpétuité. Et c'est à partir de là qu'il va être incarcéré à Robben Island, cette fameuse île prison. Et dans un quartier où finalement tous les prisonniers politiques sont rassemblés. C'est un peu la grande erreur du régime, parce que là va s'organiser...
Mauvaise stratégie, oui.
Voilà, la très mauvaise stratégie du régime, parce que va s'organiser l'université Robben Island, ou l'université Mandela, comme on l'a appelé. Et très vite, il entre en résistance, dans une résistance intérieure, intellectuelle, mais aussi politique avec ses gardiens pour faire respecter les lois. Et ce qu'il décrit, et ce que ses compagnons diront de lui, c'est qu'il était toujours dans l'activité pour faire respecter les droits, les valeurs des prisonniers, évidemment pas les siens, mais ceux de tous. Et donc il va voilà grandir aux yeux des autres et imposer son leadership qu'il fait avec beaucoup de naturel.
Alors il y a une lettre qu'il va écrire à sa femme. C'est ça, c'est en 1975, qui, je trouve, résume bien ce qui va se dérouler intérieurement. Hein. Est-ce qu'on peut en lire un petit passage?
Oui, hein, oui, on peut en lire. Je cite Mandela. Oui. La cellule est un lieu parfait pour apprendre à se connaître et pour étudier en permanence et dans le détail le fonctionnement de son esprit et de ses émotions. Et puis, autre phrase de Mandela, les individus que nous sommes ont tendance à juger leur réussite à l'aune de critères extérieurs, position sociale, etc. Ce sont certes des notions importantes pour mesurer sa réussite, mais d'autres critères intérieurs sont peut-être plus importants pour juger de l'accomplissement d'un homme ou d'une femme, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité. Il mentionne d'autres vertus, d'autres qualités morales et spirituelles, si on peut dire presque. Avant de terminer, sur l'évocation de la pratique régulière de la méditation, hein, je cite Mandela, disons un quart d'heure chaque jour avant de se coucher peut être très utile pour développer toutes ces qualités. Il est possible que dans un premier temps, dit-il à son épouse, tu aies du mal à identifier les éléments négatifs de ta vie, mais tu en seras récompensé si tu en fais l'effort régulier. N'oublie pas qu'un saint est un pécheur qui cherche à s'améliorer.
Ah, ça c'est une belle formule ça. Alors, Sophie Viguier-Vincent, ce Mandela en prison qui dit à sa femme, voilà, je médite.
Médite. Voilà. Bah, je pense que il faut retenir cette date, 1975. C'est une date charnière, je pense, où on a senti qu'il y avait un point de conversion à ce moment-là. C'est que c'est pas un homme acquis à la non-violence et à la paix et à la sagesse d'emblée en entrant en prison. Je pense qu'il a été révolté, il le dit.
Très dans la colère.
Il a eu du mal à résister à la colère, et il a résisté à la colère pour rester libre, a-t-il expliqué plus tard à Bill Clinton, qui lui-même a traversé des déserts politiques à certains moments, et il lui a dit, il faut résister à la colère pour rester libre. Donc il a résisté à ça, mais il a eu aussi des moments très durs, de révolte. Il a été mis à l'isolement, ce qui a d'ailleurs forcé la méditation. Il l'a peut-être pas découvert d'ailleurs par lui-même. Il a été forcé au silence, à l'isolement, et donc peut-être à la méditation. En 75, on sent cet étau de colère se desserrer. Et c'est pas un hasard si cette lettre arrive à ce moment-là.
Est-ce que la prison a fait Mandela?
Pour une part, pense, oui, bon, c'est un homme qui est mort à 95 ans, donc il a une très longue vie avec beaucoup d'étapes, etc. Mais on peut penser que la prison est certainement l'une des étapes principales. Elle fonctionne un peu comme un athanor, vous savez, parce que lui-même emploie le terme d'alchimie dans une de ses lettres. L'homme qui peut être ordinaire à certains égards, ou l'homme révolté qu'il était en rentrant en prison, va connaître une espèce de transformation, de transmutation dans ce foyer, hein, très dur mais très concentré, qui le protège aussi à certains égards de des violences existant à l'extérieur. C'est-à-dire que par exemple, Mandela, parlant de sa femme de l'époque, Winnie Mandela, dira justement qu'elle a été plus exposée que lui. Lui était en prison et au fond dans un environnement assez très dur mais régulier, alors que elle était confrontée aux exigences d'un contexte vraiment marqué par toutes les tas de non seulement de violences mais de trahison, de bassesse. Et donc voilà, Mandela d'une certaine façon a pu sculpter sa statue, si on peut dire, dans ce cadre-là. En transformant des circonstances, une adversité terrible, en un tremplin, en un levier pour devenir un homme d'une autre ampleur.
Mais justement, est-ce que, par exemple, lorsqu'il arrive à nouer finalement parfois de bonnes relations avec des gardiens, même avec un prêtre, il me semble,
avec des pasteurs,
un pasteur africaneur, qui était dans lequel il pouvait difficilement se reconnaître, des relations qui vont après vraiment s'enrichir. Est-ce que là il est gandien, Sophie Viguier-Vincent?
Il est totalement gandien et ça rejoint une lettre que Gandhi lui-même a écrite sur la mission d'un satyagrahi en prison. C'est de convertir ses gardiens et l'administration finalement, si ce n'est à ses idées, du moins à un idéal de non-violence et de respect de l'autre. Et c'est ce que fait Mandela en prison en respectant d'abord toujours ses gardiens, presque toujours, et en les convertissant à la non-violence, à une certaine non-violence, du moins à un respect. Et c'est peut-être aussi induit par l'assouplissement du régime carcéral au fil des années, mais pas seulement. Je pense qu'il y a eu des interactions personnelles très intéressantes. Alors il y a celle dont on parle avec ce prêtre qui semble s'ouvrir un peu finalement à l'humanité de l'autre, et aussi avec ses gardiens les plus durs, avec des directeurs de prison extrêmement durs qui finalement viennent le voir avant de partir vers d'autres missions pour lui souhaiter bonne chance. Et là c'est totalement inattendu et il sent qu'en fait il a réussi quelque chose avec ses hommes.
Oui, c'est très gandhien, parce que voilà, comme on dit, non seulement le parcours gandhien passe par une conversion intérieure qui est une conversion aussi politique, hein, le spirituel, l'éthique, le politique ne sont pas séparés, mais qui est aussi donc une conversion de l'ennemi. C'est-à-dire transformer l'ennemi en adversaire et bientôt l'adversaire en partenaire et finalement le partenaire en ami. Mandela le dira quasiment comme tel par la suite quand il jouera un rôle décisif dans la fin de l'apartheid avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud.
C'est le message chrétien, ça.
C'est aussi le message chrétien, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut dire au fond que, à la lumière de cet héritage gandhien, de cette imprégnation gandhienne chez Mandela, on peut le découvrir, ce qui nous a beaucoup étonné au fond, hein, comme un chrétien de gauche. C'est un protestant, c'est un méthodiste. Mandela est un chrétien de gauche, marqué par la culture africaine, hein, cette notion d'ubuntu, hein, cet humanisme africain, ce personnalisme africain, et marqué aussi par l'héritage gandhien.
Héritage effectivement gandhien, héritage chrétien, chez Mandela, Sophie Viguier-Vincent. Un héritage qui s'appuie aussi sur l'écriture, d'ailleurs.
Oui, alors, pas toujours pour défendre la non-violence, d'ailleurs.
Absolument, c'est ça, oui, j'y pensais.
Il le fait à deux moments de sa vie, en s'appuyant sur la parabole des marchands du temple. Dans son manuscrit d'origine, donc qu'il écrit dans les années 74-75, où il est encore vraiment un combattant et très engagé, et qui n'a pas encore cédé, je dirais, à la non-violence. Et il justifie finalement cet engagement et ce basculement vers la violence par cette parabole des marchands du temple, en disant que même Jésus, à un moment donné, il n'a pas pu faire autrement que d'utiliser la violence pour résoudre ses ennemis, pour les plier. Et donc, il va rappeler cette parabole à des journalistes du Washington Post qui viennent le voir en lui disant, mais un, vous n'êtes pas chrétien, et deux, vous êtes un violent. Et il dit, non, un, je suis chrétien, et deux, je suis comme le Christ, finalement. Alors, il le dit pas en ces termes-là, mais il rappelle cette parabole en disant, même le Christ a pu utiliser la violence.
Ces deux biographies parallèles, j'allais dire, spirituelles de Gandhi et de Mandela, Eric Vincent, bien sûr, mettent en lumière aussi des contradictions chez les personnes, chez
bien
les
sûr,
deux.
Bien sûr, ce sont des êtres humains.
Ce sont des tensions.
En ombre et lumière.
Des paradoxes. Et il y a une forte tension, à un moment donné, chez Mandela, par rapport à son christianisme, j'allais dire, c'est le marxisme.
Bien sûr. Il va épouser. Ça a été en partie évoqué tout à l'heure par Sophie sur la question du manuscrit de prison, c'est-à-dire cette première version de ses mémoires auxquelles on a eu accès très tardivement, en 2011 seulement, et qui montre à quel point, justement, il le dit lui-même, il a été imprégné par le matérialisme dialectique. Alors il le dit, mais toujours de façon un peu alambiquée, un peu non clair, quoi, mais en même temps il parle en effet de cette tension que ressentent ceux qui ont été éduqués, socialisés, notamment dans le cadre missionnaire chrétien, et qui en même temps par leur évolution politique se trouvent amenés à se rapprocher du communisme, et donc c'est une question qui est encore aujourd'hui très polémique, peut-être moins en France où le rapport au communisme est moins vif, je dirais, que dans d'autres contextes, notamment chez les anglo-saxons, mais il y a encore tout récemment des articles critique contre Mandela qui souligne ce point en disant voilà, Mandela était un communiste. Bon, nous en France, nous savons aussi qu'on peut être communiste et chrétien, par exemple. Et on a eu des figures très importantes de ce type de rapprochement. Un terme qu'on pourrait évoquer à propos de Mandela, à ma connaissance, ça l'est rarement fait, c'est celui de théologie de la libération. Hein, on a un exemple là en Afrique du Sud, dans les contextes des luttes post-coloniales de pays du Sud, et bien de cette convergence entre christianisme et au fond lutte pour l'indépendance, défense de la justice, défense des droits. Et je dirais, il y aurait d'autres rapprochements à faire avec d'autres leaders africains. Mandela n'est pas le seul de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de figures dans l'histoire africaine au XXe siècle, de résistants au colonialisme, de combattants de la liberté, qui vont combiner comme ça, de plus ou moins, à la fois une idéologie socialiste ou marxiste et une imprégnation chrétienne.
Et d'ailleurs, souvent avec le soutien du reste du clergé local. Pas toujours, parce qu'il y a effectivement un clergé, j'ai dit, africaneur, mais il y a aussi l'autre clergé.
Disons que c'est la complexité de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que d'abord, on est dans un contexte protestant, donc on a plutôt des pasteurs, plus qu'un clergé en tant que tel, avec toute la complexité en la matière des différentes dénominations protestantes. Il y a aussi des catholiques, bien sûr. Il y a d'autres religions, il y a des hindous, il y a les traditions africaines, il y a l'islam aussi qui est présent en Afrique du Sud.
Donc les juifs aussi. Et les juifs aussi. Minorité qui a beaucoup aidé, semble-t-il.
Voilà, à travers certains de ses représentants, oui.
Le combat contre
l'apartheid. Et donc là, on a, je dirais, la magie de la nation arc-en-ciel, la présence de presque toutes les cultures et toutes les religions, et aussi la complexité de cette mosaïque, très fragmentée, traversée par des tensions, des divisions, qui passe aussi en partie à travers les personnes.
Alors, un acteur majeur, en Afrique du Sud, un acteur religieux majeur, Desmond Tutu, bien sûr. Sophie Viguier-Vincent, donc Desmond Tutu, prix Nobel de la paix.
Lui-même
prix Nobel de la paix.
Comme Nelson Mandela et Frédéric de Klerk.
Oui. Et très actif pour la lutte contre l'apartheid avant la libération de Nelson Mandela. Et c'est d'ailleurs Desmond Tutu qui accueille Nelson Mandela pour sa première nuit de liberté chez lui. Effectivement, il y a un lien évident entre les deux hommes qui va s'exprimer d'ailleurs avec la commission Vérité et Réconciliation qui lancée après les élections
de 1994. Oui.
Cette commission va s'ouvrir en 96 pour que chacun puisse exprimer les souffrances, les violences subies, mais aussi les violences données, pour que victimes et bourreaux puissent se retrouver et s'écouter.
Alors justement, cette commission Vérité et Réconciliation, une première dans l'histoire ?
Pas vraiment une première, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des antécédents, en particulier en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, j'évoquais tout à l'heure l'exemple sud-américain pour la théologie de la libération. Là aussi, il y a eu, dans d'autres situations de transition démocratique, des tentatives pour créer des institutions spécifiques pour aider, accompagner ces transitions.
Mais c'était un modèle quand même, cette commission.
Voilà, c'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, elle a eu un éclat, si on peut dire, une importance, un rayonnement international particulièrement remarquable. Et puis, il y a aussi cette particularité, en effet, de l'amnistie qui est accordée aux bourreaux qui confesseraient, on peut employer ce terme, publiquement leurs crimes. Et donc, par cet aspect-là, par aussi le rôle attribué par Mandela à Desmond Tutu en tant que figure tutélaire de cette commission, on a clairement aussi une imprégnation chrétienne qui sera notamment repérée et questionnée par un certain nombre d'analystes qui verront un problème dans cette imprégnation chrétienne, alors que Mandela lui-même va au contraire l'assumer. Hein. Alors, il n'est pas, encore une fois, à la manœuvre. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, il gouverne de l'arrière. Hein. Il confie le rôle clé à Desmond Tutu. Il est à l'origine du processus de la Commission Vérité et Réconciliation. Il sera aussi celui à qui sera remis le rapport et qui en constitue en quelque sorte le dépôt. Donc, il est là, en amont et en aval. Et lui-même assume cette imprégnation spirituelle. Tout au long de son parcours de président, et par la suite aussi, il va... explicitement reconnaître l'apport des religions, en disant les religions ont un rôle à jouer dans la démocratie. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui en France est un peu troublant pour nous avec notre culture laïque. Mandela est une sorte, trace une espèce de voie très subtile. Il ne veut pas mélanger les genres. Ce n'est pas lui qui assume un rôle religieux directement. Lui, il est chef d'État, mais en même temps, il reconnaît que les religions ont un rôle de gardien en quelque sorte de principes éthiques supérieurs, de principes spirituels qui sont là pour féconder la démocratie, pour l'inspirer.
Sophie Viguier-Vincent, c'est un aspect qui n'est pas particulièrement soulevé chez Nelson Mandela, effectivement. C'est prise d'opposition, j'allais dire, par rapport aux religions.
Disons que c'est pas quelque chose que l'on souligne en France, peut-être, mais les suites de ces mémoires qui viennent de paraître, là, cet aspect est quand même évoqué et on montre à quel point il a fallu qu'il lutte et qu'il s'engage publiquement pour que cette commission puisse avoir lieu dans cette forme-là, avec les personnes telles que Desmond Tutu pour l'organiser. Et donc, il a fallu qu'il s'expose sur ce terrain-là malgré tout. Mais c'est vrai qu'il est resté prudemment en retrait, Et ce qui a peut-être permis d'autant plus facilement l'expression du fond religieux de cette démarche, parce que c'est vrai que les audiences étaient organisées de manière...
Il y avait une bougie.
Il y avait des chants, il y avait des prières, donc c'était très religieux comme contexte.
Mais là, il faut aussi essayer de se replacer dans le contexte justement de la culture sud-africaine, qui pourrait faire penser par certains côtés à la culture américaine. C'est-à-dire où la vie collective est imbibée par du religieux qui n'est pas vécu comme quelque chose de plaqué, mais qui est vraiment l'expression même de la foi des différents individus, des différents groupes.
Sophie Vivasson.
Des philosophes comme Salazar, qui ont vraiment étudié la question en Afrique du Sud sur cette commission Vérité-Réconciliation, ont pu dire que il y avait un fondement religieux de la démocratie sud-africaine à travers cette commission Vérité-Réconciliation, ce qui serait impensable en France, mais peut-être pas tant que ça. C'est une autre approche de la fondation d'une démocratie.
Alors, en conclusion, Gandhi, Mandela, au terme de cette analyse très profonde, très fouillée que vous avez réalisée tous les deux, un tandem pour l'histoire ?
Un tandem pour l'histoire et pour le présent et pour l'avenir, parce que nous avons besoin au fond de la lumière qui émane de ces deux phares, comme disait Baudelaire à propos de certaines grandes figures, pour évidemment envisager les défis qui nous attendent.
Sophie Viguet-Vinson.
Je pense qu'ils nous ont aussi montré que cette conversion devait être intérieure et qu'elle était longue, qu'on devait la mûrir en nous, et que ça prenait du temps. Et que si, politiquement et collectivement, si on prend la voie qu'ils nous ont tracée de la non-violence, il faut aussi accepter le temps long du dialogue, de l'approche, de la compréhension de l'autre. Et donc voilà, ça va peut-être pas dans le sens des interventions politiques rapides dans un pays ou un autre, mais plutôt par la voie de la négociation et de la conversion à la fois collective et personnelle intérieure qui prend du temps.
Pas de conversion collective sans conversion personnelle. Je vous remercie tous les deux. Merci Sophie Viguet-Vinson, merci Éric Vinson pour votre livre Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde, et c'est publié chez Albin Michel. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Nicolas Benita vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.